Chapitre 4 Des ressources de l'Amérique, réflexions diverses. Je n'ai rencontré personne, soit en Angleterre, soit en Amérique, qui ne pensât que tôt ou tard, la séparation aurait lieu entre ces deux contrées. Et jamais nous n'avons montré moins de jugement que lorsque nous avons tâché de définir ce que nous appelons la maturité de l'Amérique pour l'indépendance. Comme on avoue que cette mesure est inévitable et que les opinions ne varient que sur le temps où elle doit avoir lieu, pour éviter les méprises, examinons en général la situation des choses et tâchons, s'il est possible, de trouver son époque véritable. Mais nous n'avons pas besoin de prendre tant de peine. L'examen cesse dès les premiers pas, car le temps nous a devancés. Le concours unanime, la glorieuse union de toutes les circonstances, prouve ce fait. Notre force ne gît pas dans le nombre des hommes, mais dans l'unité des sentiments. Et encore, le nombre d'hommes que nous pouvons armer suffit pour repousser les forces de l'univers. Les colonies ont maintenant sur pied le corps le plus considérable de troupes disciplinées que soit en état de lever aucune puissance. Elles sont arrivées aux périodes où aucune d'elles n'est en état de se soutenir elle-même, mais où leur confédération bien unie peut les défendre toutes. Aux périodes où leurs situations respectives, altérées en plus ou en moins, entraînerait des conséquences fatales. Nos forces de terre sont déjà suffisantes, et quant à la marine, nous ne saurions nous dissimuler que la Grande-Bretagne ne laisserait pas construire un seul vaisseau de guerre en Amérique tant qu'elle en demeurerait souveraine. Ainsi, nous ne serions pas plus avancés à cet égard dans un siècle que nous ne le sommes aujourd'hui. Disons mieux, nous le serions encore moins, attendu que le bois de construction diminue chaque jour dans nos contrées, et que le peu qui s'en conservera à la fin sera loin de nous et difficile à se procurer. Si les colonies regorgeaient d'habitants, leur souffrance serait insupportable dans les circonstances actuelles. Plus nous aurions de ports de mer, plus nous aurions à défendre, plus nous risquerions de perdre. Notre population est si heureusement proportionnée à nos besoins que personne n'est dans le cas de rester oisif. La diminution du commerce nous vaut une armée, et l'entretien de cette armée produit un nouveau commerce. Nous n'avons point de dettes, et quelques emprunts que nous soyons obligés de faire, ils éterniseront notre gloire et serviront de monument à notre vertu. Si nous parvenons à transmettre à nos descendants une forme stable de gouvernement et une constitution indépendante, à quelque prix que nous leur ayons acheté ces biens, ils ne leur sembleront pas trop chers. Mais c'est agir sans raison, c'est trahir cruellement la postérité, que de dépenser des millions simplement en vue d'obtenir l'abrogation de quelques actes méprisables et de renverser les ministres actuels, parce que c'est laisser à nos enfants la grande entreprise à terminer et le fardeau d'une dette qui ne leur sera d'aucun profit. Une semblable pensée est indigne d'un homme d'honneur. Elle est le signe indubitable d'une âme étroite et d'une politique minutieuse. La dette que nous pouvons contracter ne mérite pas que nous nous y arrêtions pourvu que l'ouvrage s'accomplisse. Il faut aux États une dette nationale. C'est un engagement dont tous les membres répondent, et lorsqu'elle ne porte pas d'intérêt, elle ne saurait être onéreuse sous aucun rapport. La Grande-Bretagne est accablée d'une dette de plus de 50 millions sterling, qui lui coûte plus de 4 millions sterling d'intérêt. Pour la dédommager, elle a une marine considérable. L'Amérique n'a ni dette ni marine, et toutefois, pour la 20e partie de la dette nationale de l'Angleterre, elle pourrait avoir une marine égale à la sienne. La marine anglaise ne vaut pas, à l'heure qu'il est, plus de 3,5 millions de livres sterling. La première et la seconde édition de ce pamphlet ne renferment point les calculs suivants. Je les y insère aujourd'hui pour prouver la justesse de cette estimation. Voyez l'histoire navale d'Entick, page 56 de l'introduction. D'après les comptes de M. Burchett, secrétaire de la marine, il en coûte, pour construire un vaisseau de chaque dimension, le garnir de mâts, de voiles, d'agrès, et le fournir pour 8 mois de provisions nécessaires aux pilotes et aux charpentiers, savoir, pour un vaisseau de 100 canons, 35,553 livres sterling. Pour un vaisseau de 90 canons, 29,886. Pour un vaisseau de 80, 23,638. Pour un vaisseau de 70, 17,785. Pour un vaisseau de 60, 14,297. Pour un vaisseau de 50, 10,606. pour un vaisseau de 40 canons, 7855. Pour un vaisseau de 30 canons, 5846. Pour un vaisseau de 20 canons, 3710. Il n'est pas difficile, d'après cela, de supputer ce que vaut, ou, pour mieux dire, ce que coûte la marine anglaise. En 1757, époque de sa gloire la plus brillante, elle était composée comme il suit. Vaisseau, 6, canon, 100, frais, 213 318 livres sterling. 12 vaisseaux, 90 canons, 358 632. 12 vaisseaux de 80 canons, 283 656 livres. 43 vaisseaux de 70 canons, 764 755. 35 vaisseaux de 60 canons, 496 895. 40 vaisseaux de 50 canons, 424 240 livres. 45 vaisseaux de 40 canons, 340 110 livres. 58 vaisseaux de 20 canons, 252 180. 85 sloops, batteries flottantes, etc., à 2000 livres sterling chaque, 270 000 livres sterling. Total, 3 266 786 livres sterling. Reste pour les canons, 33 214 livres. Total, 3 500 000 livres sterling. Il n'y a pas de pays sur le globe aussi heureusement situé pour avoir une flotte aussi capable d'en former une par ses propres moyens que l'Amérique. Le goudron, le bois de construction, le fer, les cordages sont les productions naturelles. Nous n'avons besoin de rien aller chercher au dehors, tandis que les Hollandais, qui gagnent immensément à louer leurs vaisseaux de guerre aux Espagnols et aux Portugais, sont obligés d'importer chez eux la plupart des matériaux qu'ils emploient. Nous devons envisager la construction d'une flotte comme un article de commerce, puisque c'est la fabrique la plus convenable à cette contrée. C'est aussi le meilleur emploi que nous puissions faire de notre argent. Un vaisseau, lorsqu'il est achevé, vaut plus qu'il ne coûte. Il assure ce point si délicat de la politique nationale, l'avantage de faire le commerce et de le protéger tout ensemble. Construisons toujours des vaisseaux. Si nous n'en avons pas besoin, nous les vendrons et par ce moyen, nous remplacerons notre papier-monnaie avec du numéraire. En général, on se trompe grossièrement au sujet des hommes qui doivent monter une flotte. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un quart de matelot. Pendant la guerre dernière, le Terrible, commandé par le capitaine Death, soutint un combat plus violent qu'aucun autre navire. Et cependant, il n'avait pas 20 matelots à bord, quoique son équipage fût composé de plus de 200 personnes. Quelques matelots instruits et sociables formeront, en peu de temps, un nombre suffisant de cultivateurs à la manœuvre ordinaire d'un vaisseau. De tout ce qui vient d'être dit, il résulte que nous ne serons jamais plus à portée de commencer à nous donner une marine qu'au moment actuel, où notre bois de construction existe dans son intégrité, où nos pêcheries sont bloquées, où nos matelots et nos charpentiers sont sans emploi. On construisit, il y a 40 ans, des vaisseaux de guerre de 70 et 80 canons dans la Nouvelle-Angleterre. Pourquoi n'en ferait-on pas aujourd'hui? L'art de construire les vaisseaux est le triomphe de l'Amérique, et avec le temps, elle surpassera en ce genre le monde entier. Les grands empires de l'Orient sont presque tous dans l'intérieur des terres. Ils sont par conséquent hors d'état de la rivaliser. L'Afrique est plongée dans la barbarie, et aucune puissance européenne n'a une aussi grande étendue de côte ou des matériaux aussi abondants. Si la nature en a favorisé quelques-unes du premier de ses avantages, elle leur a refusé l'autre. Elle ne les a prodigués tous les deux qu'à la seule Amérique. Le vaste empire de la Russie n'a presque point de mer, ce qui fait que son goudron, ses immenses forêts, son fer et ses cordages ne forment pour lui que des branches de commerce. Si nous avons égard à notre sûreté, pouvons-nous nous passer de flotte? Nous ne sommes plus ce que nous étions il y a 60 ans. Alors, nation peu nombreuse, nous aurions pu laisser nos effets dans les rues, ou plutôt dans les champs, et dormir tranquillement, sans avoir de barreaux à nos fenêtres ou de verrous à nos portes. Les temps sont changés, et nos moyens de défense doivent se perfectionner à proportion de l'accroissement de nos propriétés. Il y a un an qu'un simple pirate aurait pu remonter la Delaware et mettre Philadelphie à contribution pour quelle somme il aurait voulu. Et la même chose aurait pu se renouveler en d'autres endroits. Je dis plus, un drôle entreprenant sur un brigantin de 14 ou de 16 canons aurait pu voler ainsi dans toute l'étendue du continent et emporter 1 million de numéraires. Ce sont là des objets qui demandent notre attention et nous prouvent la nécessité d'une marine qui nous protège. On m'objectera peut-être que l'Angleterre nous protégera quand nous aurons fait notre paix avec elle. Aurions-nous la sottise de croire qu'elle entretiendra une marine dans nos ports à cette intention? Le sens commun nous dira que la puissance qui a tâché de nous assujettir est la moins propre de toutes à nous défendre. Sous prétexte d'amitié, elle effectuerait la conquête de nos provinces, et après une longue et courageuse résistance, quelques caresses simulées nous réduiraient en esclavage. Or, si nous ne devons pas admettre ces vaisseaux dans nos ports, je demande comment elle nous protégera. Une marine est d'un bien faible usage à la distance de 2 ou 3 000 lieues. Elle ne peut rendre aucun service dans les occasions urgentes. Si donc nous sommes forcés à l'avenir de nous protéger nous-mêmes, pourquoi nous protégerions-nous pour l'avantage d'autrui? Pourquoi ne serait-ce pas pour le nôtre? La liste des vaisseaux de guerre de la Grande-Bretagne est longue et formidable, mais il n'y en a pas la dixième partie qui soit en état de servir sur le champ. Plusieurs même n'existent plus que sur le papier. Cependant, pourvu qu'il en reste une planche, leur nom continue de paraître pompeusement sur la liste. Ajoutons que sur le nombre de ceux qui sont en état de servir, il n'y en a pas un cinquième dont le gouvernement puisse disposer comme il veut. Les Indes orientales et occidentales, les possessions de la Méditerranée, l'Afrique et les autres contrées sur lesquelles l'Angleterre étend ses prétentions demandent la plupart de ces vaisseaux. Par un mélange de préjugés et d'inattention, nous avons pris des idées fausses de la marine anglaise. Nous en avons parlé comme si nous avions dû craindre qu'elle nous attaquât tout à la fois. Cette erreur nous a fait supposer que nous devions nous en procurer une aussi considérable, et comme la chose ne pouvait s'exécuter à l'instant, des tories déguisés qui se cachent parmi nous se sont servis de ce motif pour nous détourner de l'entreprendre. Rien n'est plus faux qu'une pareille supposition, car si l'Amérique avait seulement 1/20 des forces navales de l'Angleterre, elle maîtriserait de beaucoup ses opérations, puisque n'ayant ni prétention ni domaines éloignés, notre marine tout entière serait employée sur nos côtes, où il y a 2 contre 1 à parier que nous aurions l'avantage sur ceux qui auraient 2 ou 3 000 lieues à parcourir, soit avant de nous attaquer, soit pour réparer leur monde et leur vaisseau. Et bien que l'Angleterre, au moyen de sa flotte, nuisit à notre commerce en Europe, nous gênerions également le sien dans ces îles d'Amérique qui, voisines du continent, sont absolument à notre merci. On pourrait imaginer quelques méthodes d'entretenir une force navale en temps de paix si nous ne jugions pas qu'il fût nécessaire d'avoir constamment une marine sur pied. Si l'on accordait des primes aux négociants, pour les encourager à construire des vaisseaux de 20, 30, 40 ou 50 canons qu'ils emploieraient à leur service, 50 ou 60 de ces bâtiments, avec quelques vaisseaux de conserve, toujours en activité, formeraient une marine suffisante sans nous exposer à l'inconvénient dont on se plaint si fort en Angleterre, de laisser, durant la paix, notre flotte pourrir dans les chantiers. Il est d'une saine politique d'unir les moyens du commerce et ceux de la défense, car lorsque notre force et nos richesses se soutiennent mutuellement, nous n'avons rien à craindre des ennemis du dehors. Nous avons en abondance presque tout ce qu'il faut pour se défendre. Le chanvre prospère chez nous jusqu'au point de nous être à charge. Ainsi, nous ne craignons pas de manquer de cordage. Notre fer est supérieur à celui des autres contrées. Les armes que nous fabriquons égales à toutes celles qu'on fabrique ailleurs. Nous avons de quoi fondre des canons à notre gré. Nous faisons sans cesse du salpêtre et de la poudre. Nos connaissances s'étendent journellement. La fermeté est le trait distinctif de notre caractère, et le courage ne nous a jamais abandonnés. Qu'est-ce donc qui nous manque? Pourquoi hésitons-nous? Nous ne devons attendre de l'Angleterre que notre ruine. Si jamais elle est réintégrée dans le gouvernement de l'Amérique, ce continent ne méritera pas que l'on daigne y vivre. Il s'y élèvera des jalousies continuelles, les insurrections se renouvelleront chaque jour. Et qui prendra sur soi de les apaiser? Qui voudra risquer sa vie pour faire plier ses concitoyens sous une autorité étrangère? La différence de la Pennsylvanie et du Connecticut, relativement à quelques terrains non affermés, montre l'insignifiance du gouvernement tant qu'il sera entre les mains de la Grande-Bretagne et prouve sans réplique qu'une administration fixée sur le continent peut seule régler les affaires du continent. Il se présente encore une raison à l'appui de ce que j'ai déjà avancé, que le temps actuel est le meilleur que nous puissions choisir pour nous déclarer indépendants. C'est que moins nous sommes, plus il reste des terres vacantes dont nous pouvons nous servir, non seulement au paiement de la dette que nous aurons contractée, mais encore pour les dépenses du gouvernement, au lieu de laisser au roi la faculté d'en gratifier ses méprisables serviteurs. Aucune des nations que le soleil éclaire ne jouit d'un tel avantage. La faiblesse des colonies, bien loin d'être contraire à la cause de l'indépendance, plaide en sa faveur. Nous sommes assez nombreux, et si nous l'étions davantage, il pourrait se faire que nous fussions moins unis. C'est une chose digne de remarque que plus un pays est peuplé, moins ses armées sont considérables. Elles l'étaient beaucoup plus dans l'Antiquité qu'elles ne le sont chez les modernes, et la raison en est frappante. Le commerce étant la suite de la population, les hommes s'y livrent avec trop d'ardeur pour s'occuper d'autre chose. Le commerce diminue le patriotisme et la bravoure. Et l'histoire nous apprend assez que les plus vaillants exploits ont toujours illustré l'enfance des nations. En étendant son commerce, l'Angleterre a perdu son énergie. La ville de Londres, malgré son immense population, se soumet avec la patience des lâches à des insultes continuelles. Plus les hommes ont à perdre, moins ils sont disposés à risquer. Les riches, en général, sont esclaves de la crainte, et ils cèdent à la puissance des cours avec la duplicité timide d'un Espagnol. La jeunesse des nations, comme celle des individus, est la saison propre à semer les bonnes habitudes. Il serait difficile, sinon tout à fait impossible, dans un demi-siècle, de donner un gouvernement à l'Amérique. La confusion naîtrait de la diversité infinie d'intérêts occasionnée par l'accroissement du commerce et de la population. Les colonies seraient ennemies les unes des autres. Chacune d'elles, assez forte par elle-même, dédaignerait l'assistance de ses rivales. Et tandis que les orgueilleux et les sots triompheraient de leur distinction, les sages gémiraient de ce que l'union n'aurait pas été formée plus tôt. Le moment actuel est donc le vrai moment de l'établir. L'intimité que l'on contracte dans l'enfance, l'amitié qui est le fruit du malheur, sont les plus durables, les moins sujettes aux vicissitudes. Notre union présente est marquée à ses heureux caractères. Nous sommes jeunes et nous avons été opprimés, mais notre concorde a empêché nos troubles et présente à la postérité une époque mémorable et glorieuse. Le moment actuel nous offre aussi cette occasion que le ciel n'accorde qu'une fois à chaque peuple, celle de se donner un gouvernement national. Beaucoup l'ont laissé échapper et se sont mis par là dans la nécessité de recevoir les lois de leurs conquérants au lieu d'en faire par eux-mêmes. Ils commencèrent par avoir un roi. Ils eurent ensuite une forme de gouvernement, tandis qu'il faut d'abord rédiger la charte constitutionnelle et après cela charger des hommes de veiller à son exécution. Mais que les erreurs des autres nous rendent sages et nous enseignent à profiter de l'occasion qui se présente à nous de commencer notre gouvernement par où il faut le commencer. Quand Guillaume le Conquérant subjuga l'Angleterre, il lui donna des lois à la pointe de l'épée. Et jusqu'à ce que nous ayons consenti à voir le gouvernement fixé en Amérique, occupé d'une manière légale et fondée sur une autorité déléguée par nous-mêmes, nous serons en danger de le voir envahi par quelque brigand fortuné qui nous traitera comme Guillaume traita les Anglais. Et alors, que deviendra notre liberté? Où sera notre propriété? Pour ce qui regarde la religion, je crois que le devoir indispensable de tout gouvernement est de protéger tous ceux qui la professent suivant leur conscience, et je ne vois pas qu'il ait autre chose à faire à cet égard. Dépouillons-nous de cette petitesse d'esprit, de cet égoïsme de principe, que la lie de toutes les sectes a tant de peine à abjurer, et nos craintes en ce genre seront bientôt dissipées. Le soupçon est le partage des âmes basses et le poison de toute bonne société. Quant à moi, je suis pleinement et sincèrement persuadé que la volonté du Tout-Puissant est qu'il y ait parmi nous une diversité d'opinions religieuses. Elle ouvre un champ plus vaste à notre bienveillance en tant que nous sommes chrétiens. Si nous pensions tous de même, notre piété demeurerait sans épreuve. Dans ces généreux principes, j'envisage nos sectes diverses, distinguées par telle ou telle domination, comme les enfants d'une même famille, entre lesquels il n'y a d'autre différence que le nom de baptême. J'ai donné plus haut des notions sur la convenance d'une charte continentale, car ma hardiesse se borne à offrir de simples aperçus et non des plans arrêtés. Je prends ici la liberté de revenir sur ce sujet en observant qu'une charte est un contrat solennel auquel tous prennent part, afin de soutenir les droits de chacun en ce qui concerne la religion, la liberté personnelle et la propriété. Les marchés solides et les bons comptes font les amis durables. J'ai parlé aussi de la nécessité d'une représentation égale et nombreuse. Et de tous les objets politiques, il n'y en a point qui soit plus digne de notre attention. Un petit nombre de représentants sont des choses également dangereuses. Le danger s'accroît si la représentation est non seulement restreinte, mais encore inégale. En voici un exemple. Lorsque la pétition des sociétaires fut mise sous les yeux de l'Assemblée de Pennsylvanie, il n'y avait de présents que 28 membres. Tous ceux du comté de Bucks, au nombre de 8, votèrent contre elle, et si 7 des députés de Chester avaient suivi leur exemple, toute cette province aurait été gouvernée par 2 comtés. Or, elle est toujours exposée à ce péril. La démarche inexcusable et téméraire que fit cette assemblée dans sa première session pour acquérir une autorité illégitime sur les délégués de cette province doit avertir la masse du peuple de prendre garde à la manière dont il remet son autorité en d'autres mains. On rassembla, pour les députés, un corps d'instruction qui, par sa déraison, eut couvert de honte un écolier. Et, d'après qu'un fort petit nombre de citoyens l'eût approuvé, il fut porté à l'Assemblée et passa comme étant le vœu de toute la colonie. Tandis que si toute la colonie savait combien de mauvaise volonté l'Assemblée a mis dans quelques opérations nécessaires, elle ne balancerait pas un moment à regarder tous ses membres comme indignes de sa confiance. La nécessité du moment fait adopter beaucoup de mesures qui dégénéreraient en oppression si l'on continuait d'en faire usage quand ce moment est passé. La convenance et la justice sont deux choses très différentes. Lorsque les calamités de l'Amérique exigeaient une consultation, l'on ne trouva point de méthode plus prompte ou plus avantageuse que de choisir dans cette vue quelques membres de diverses assemblées provinciales, et la sagesse de leurs opinions a sauvé ce continent de sa ruine. Mais comme il est plus que probable que nous aurons toujours un congrès, tous ceux qui aiment le bon ordre seront obligés d'avouer que le mode d'élection de ses membres mérite la plus sérieuse considération. Et je demande à ceux qui font leur étude du genre humain si ce n'est pas cumuler sur les mêmes têtes de trop grands pouvoirs que de ne pas séparer le titre d'électeur de celui de représentant. Occupés d'un plan qui doit servir à la postérité, souvenons-nous que la vertu n'est pas héréditaire. Souvent, c'est de nos ennemis que nous apprenons d'excellentes maximes, et souvent leurs erreurs nous rendent raisonnables sans que nous y pensions. M. Cornwall, un des lords de la Trésorerie, traita la pétition de l'Assemblée de New York avec mépris, parce que, dit-il, cette Assemblée n'était composée que de 26 membres. D'où il concluait qu'un nombre aussi peu considérable ne pouvait agir au nom de la totalité des citoyens. Grâce lui soit rendue pour son honnêteté involontaire. Pour finir, quelque étrange que ceci puisse sembler à quelques-uns, quelque peu disposé qu'il soit à penser de cette manière, ce n'est pas là ce qui doit arrêter, mais on peut alléguer une foule de raisons victorieuses et frappantes pour prouver que rien n'est plus propre à arranger promptement nos affaires que de nous déclarer indépendants sans crainte et sans détour. Voici quelques-unes de ces raisons. Premièrement, lorsque deux nations sont en guerre, il est d'usage que d'autres puissances, étrangères à leurs querelles, s'interposent afin de les mettre d'accord et travaillent pour elles aux préliminaires de la paix. Or, tant que les Américains se diront sujets de la Grande-Bretagne, aucune puissance, quelque bien disposée qu'elle soit en notre faveur, ne nous offrira sa médiation. Dans notre position actuelle, nous sommes donc exposés à des querelles interminables. Secondement, il est déraisonnable de supposer que la France ou l'Espagne nous donnent le moindre secours si nous ne prétendons en faire usage que pour réparer la scission momentanée et fortifier l'union de l'Angleterre et de l'Amérique, attendu que les suites de cette opération seraient dommageables à ces puissances. Troisièmement, tant que nous nous disons sujets de la Grande-Bretagne, nous passons nécessairement pour des rebelles aux yeux des autres nations. Leur tranquillité est compromise par ce spectacle de sujets en armes contre leurs souverains reconnus par eux-mêmes. Il est vrai que, sur les lieux, nous pouvons résoudre ce problème. Mais l'accord de la résistance et de l'état de sujet est une idée beaucoup trop raffinée pour les esprits ordinaires. Quatrièmement, si l'Amérique publiait et faisait passer aux différentes cours un manifeste dans lequel seraient exposés les maux que nous avons souffert et les efforts paisibles que nous avons tentés sans fruit pour obtenir du soulagement, où nous déclarerions en même temps que, ne pouvant plus vivre sous la tyrannie de la cour d'Angleterre, nous avons été réduits à la nécessité de rompre toute liaison avec elle, enfin où nous assurerions à toutes ces puissances nos dispositions paisibles à leur égard et le désir que nous avons de commercer avec leurs sujets, un pareil mémoire produirait plus de bons effets pour ce continent qu'un vaisseau chargé de pétitions pour la Grande-Bretagne. Sous notre domination présente de sujets de l'Angleterre, nous ne pouvons ni être accueillis, ni même avoir audience en Europe. L'usage de toutes les cours est contre nous et demeurera tel jusqu'à ce que nous ayons pris rang avec les autres nations en nous déclarant indépendants. Ces démarches peuvent, à la première vue, sembler étranges et difficiles. Mais comme toutes celles que nous avons déjà faites, elles nous deviendront familières et agréables. Et jusqu'à ce que notre indépendance soit déclarée, l'Amérique sera dans la position d'homme qui remet de jour en jour une affaire déplaisante, est néanmoins persuadé qu'elle doit avoir lieu, craint de s'en occuper, le désire, et ne cesse d'être assailli par l'idée de son indispensabilité. Depuis la première édition de cet ouvrage, ou plutôt le jour qu'elle parut, un certain écrit intitulé « Le discours du roi » a été publié dans cette cité, qui n'aurait pu être mis au jour dans une circonstance plus favorable si l'esprit de prophétie eût présidé à sa composition. Les principes sanguinaires qui l'ont dicté prouvent combien il est nécessaire de suivre la doctrine que j'ai mise en avant. Les hommes lisent l'un et l'autre pour se venger. Et le libelle en question, au lieu de nous effrayer, a préparé la voie au mâle principe de l'indépendance. Les égards et même le silence, quel que soit leur motif, entraînent des suites fâcheuses lorsqu'ils donnent la moindre autorité à des écrits méprisables et criminels. Si l'on convient de cette maxime, il s'ensuit que la production dont il s'agit méritait et mérite encore l'exécration du Congrès et de l'Amérique entière. Cependant, comme la tranquillité domestique d'une nation dépend beaucoup de la chasteté de ce qu'on peut légitimement appeler des mœurs nationales, il vaut souvent mieux passer dédaigneusement certaines choses sous silence que d'employer des méthodes nouvelles de désapprobation capables d'altérer le moins du monde cette gardienne de notre repos et de notre sûreté. Peut-être, si l'ouvrage dont je parle n'a pas subi un châtiment public, en est-il redevable à cette prudence délicate ? Ce n'est qu'un libelle audacieux contre la vérité, le bien public et l'existence du genre humain, une méthode pompeuse d'offrir des hommes en sacrifice à l'orgueil des tyrans. Mais ce massacre général de l'humanité est un des privilèges de la royauté, une de ses conséquences nécessaires, car de même que la nature ne connaît pas les rois, ils ne la connaissent pas non plus. Et quoique créés par nous-mêmes, ils ne nous connaissent pas, et sont devenus les dieux de ceux qui les ont fait ce qu'ils sont. Cet écrit a cependant un mérite, c'est qu'il n'est pas d'un genre à faire illusion. Nous aurions beau vouloir en être dupes, la chose serait impossible, la brutalité et la tyrannie s'y montrent à découvert. Il ne nous laisse point dans l'embarras, et chaque ligne est propre à nous convaincre, dès la première lecture, que celui qui n'a d'autre subsistance que les animaux qu'il tue dans les bois, que l'Indien nu et sans défense est moins sauvage qu'un tyran. Sir John Dalrymple, père putatif d'un ouvrage plaisant et jésuitique, fallacieusement intitulé « Adresse du peuple anglais aux habitants de l'Amérique », supposant sans motif que les Américains étaient hommes à se laisser effrayer par la description magnifique d'un roi, a peut-être assez imprudemment, j'en conviens, tracé le vrai caractère de celui qui occupe le trône de la Grande-Bretagne. « Mais, dit-il, si vous vous sentez du penchant à louer une administration de laquelle nous ne nous plaignons pas, le ministère du marquis de Rockingham, lors de l'abrogation de l'acte du timbre, c'est fort mal fait à vous de refuser vos louanges au monarque dont le consentement seul, exprimé par un signe de tête, autorisait la moindre de ses opérations. » Voilà du torisme, s'il en fut jamais, de l'idolâtrie sans voile. Quiconque a la force de digérer de sang-froid une pareille doctrine a perdu tous ses droits au titre de créature raisonnable. Il a apostasié l'humanité. Il faut le regarder comme un individu qui non seulement a abjuré la dignité de son être, mais qui est tombé au-dessous de la classe des brutes et qui se traîne honteusement sur la terre comme un reptile. Toutefois, ce que dit ou fait le roi d'Angleterre a désormais peu d'importance. Il a enfreint toutes les obligations morales, foulé aux pieds la nature et la conscience, et par son esprit buté d'insolence et de cruauté, s'est gagné une haine universelle. L'intérêt actuel de l'Amérique est de pourvoir elle-même à ses propres affaires. Elle a déjà une famille jeune et nombreuse. Son devoir est plutôt d'en prendre soin que de prodiguer ses ressources pour le soutien d'une autorité que la nature et le christianisme réprouvent également. Vous, dont la fonction est de veiller sur la morale des peuples, quelle que soit votre croyance et quelque nom que vous portiez, et vous qui êtes plus immédiatement les gardiens de la liberté publique, si vous désirez maintenir votre pays natal à l'abri de la corruption de l'Europe, vous devez former en secret des vœux pour son indépendance. Mais je laisse aux réflexions particulières ce qui est du ressort de la morale, et je borne mes nouvelles observations au texte suivant. Premièrement, il importe à l'Amérique d'être séparée de la Grande-Bretagne. Deuxièmement, quel est, du plan de la réconciliation et de celui de l'indépendance, le plus facile et le plus praticable. Je pourrais, à l'appui de la première proposition, si je le croyais à propos, alléguer l'opinion de quelques-uns des hommes les plus habiles et les plus expérimentés de ce continent qui n'ont pas encore rendu leurs sentiments publics à cet égard. Dans le fait, son évidence saute aux yeux, car jamais nation dépendante d'une puissance étrangère, limitée dans son commerce, enchaînée dans son autorité législative, ne peut atteindre une certaine supériorité. L'Amérique ne sait pas encore ce que c'est que l'opulence, et bien que l'histoire n'offre rien qui puisse être mis en parallèle avec ses progrès, ce ne sont que les progrès de l'enfance si on les compare avec ce qu'elle serait en état de faire si elle avait entre ses mains, comme cela devrait être, la puissance législative. En ce moment, la Grande-Bretagne ambitionne ce qui ne lui serait d'aucun avantage si elle en venait à bout. Et l'Amérique balance sur un parti qu'elle ne saurait négliger, à moins de vouloir se perdre sans retour. C'est le commerce avec l'Amérique, et non sa conquête, qui sera utile à l'Angleterre. Et ce commerce continuerait d'avoir lieu jusqu'à un certain point, quand bien même les deux États ne dépendraient pas plus l'un de l'autre que la France ne dépend de l'Espagne, attendu que pour beaucoup d'articles, l'une et l'autre n'ont point de meilleurs débouchés que leurs ports respectifs. Mais il s'agit surtout et uniquement de l'indépendance de l'Amérique à l'égard de l'Angleterre, comme de tout autre pays. Et ainsi que toutes les vérités dont la découverte est le fruit de la nécessité, la sagesse de cette mesure acquerra tous les jours plus de force et d'évidence. Premièrement, parce que tôt ou tard l'Amérique sera forcée d'en venir là. Secondement, parce que plus nous différerons, plus le succès entraînera de difficultés. Je me suis souvent amusé, entre amis ou dans le monde, à noter en silence les erreurs spécieuses des gens qui parlent sans réflexion. De toutes celles que j'ai entendues soutenir, la plus générale paraît être que si la rupture de l'Angleterre et des colonies était arrivée 40 ou 50 ans plus tard, au lieu d'arriver maintenant, celle-ci aurait été plus en état de s'affranchir de leur dépendance. À cela, je réponds que les talents militaires dont nous pouvons nous glorifier à l'époque où nous sommes viennent de l'expérience que nous avons acquise dans la dernière guerre et que dans 40 ou 50 ans, il n'en subsisterait plus de traces. L'Amérique n'aurait pas un général, pas même un seul officier, et nous et nos enfants serions aussi ignorants dans la science militaire que l'étaient les anciens Indiens. Cette unique assertion, bien discutée, prouvera d'une manière incontestable que le moment actuel est préférable à tout autre. Voici comment il faut raisonner. À la fin de la dernière guerre, nous avions de l'expérience, mais peu de monde. Et dans 40 ou 50 ans, nous aurons des hommes et point d'expérience. Ainsi, le point à saisir doit être placé entre ces deux extrêmes. Il faut une époque où un degré suffisant d'expérience se trouve joint à un accroissement convenable de population, et cette époque est précisément l'époque actuelle. Le lecteur pardonnera cette digression qui est un peu étrangère à ma première thèse. J'y reviens en disant que si nous faisons, tant bien que mal, un arrangement avec l'Angleterre, si elle demeure en possession de la souveraineté de l'Amérique, ce qui, dans les circonstances présentes, implique une renonciation absolue à tous nos droits, nous nous priverons nous-mêmes des moyens d'amortir la dette que nous avons contractée et que nous sommes sur le point de contracter. Les terres de l'intérieur dont nos provinces sont clandestinement dépouillées par l'injuste extension des limites du Canada, à ne les évaluer que sur le pied de 100 livres sterling par centaine d'acres, montent à plus de 25 millions de la monnaie de Pennsylvanie, et les réserves sur le pied d'un sou sterling par acre à 2 millions de revenus. C'est la vente de ces terres qui subviendra, sans léser qui que ce soit, à l'extinction de la dette, tandis que les réserves diminueront toujours et finiront par couvrir à elles seules les dépenses annuelles du gouvernement. Peu importe combien de temps durera le paiement de la dette, pourvu que l'argent provenu de la vente des terres soit appliqué à son amortissement, chaque Congrès aura successivement la direction de cette partie. Je viens maintenant au second chef, savoir quel est du plan d'une réconciliation ou de celui de l'indépendance le plus facile et le plus praticable. Celui qui prend la nature pour guide n'est pas embarrassé de trouver des raisonnements péremptoires. Sur ce principe, je réponds en général que l'indépendance ayant l'avantage de la simplicité et ses moyens existant en nous-mêmes, tandis que la réconciliation est une chose extrêmement compliquée, sujette à l'entremise d'une cour perfide et capricieuse, la décision ne peut laisser aucun doute. L'état présent de l'Amérique est vraiment fait pour alarmer tout homme capable de réfléchir. Sans loi, sans gouvernement, sans autorité d'aucune autre espèce que celle qui est fondée sur les égards et que les égards ont accordée, maintenue dans son unité par un concours de sentiments qui n'a point d'exemple, qui néanmoins est sujet au changement et que tous ses ennemis secrets s'efforcent de détruire, nous pouvons définir notre position, une législation dépourvue de loi, une sagesse qui n'est la suite d'aucun plan, une constitution qui n'a point de terme pour en exprimer la nature, est chose bien surprenante. L'indépendance la plus illimitée qui cherche à reprendre des fers déjà rompus. Il n'y a rien de tel dans l'histoire. Jamais peuple ne s'est trouvé en de pareilles circonstances, et quel homme assez hardi pour deviner à quoi elles aboutiront. Dans le système que nous avons embrassé, la propriété de qui que ce soit n'est en sûreté, les esprits de la multitude flottent au hasard. Et ne voyant point d'objet fixe devant eux, ils poursuivent les fantômes de l'imagination ou de la partialité. Rien ne passe pour criminel. Les lois sur la trahison ne sont point en vigueur. De là, chacun se croit maître de faire ce qu'il lui plaît. Les Tories n'eussent pas osé s'assembler pour nous nuire s'ils avaient été prévenus que les lois de l'État prononçaient la peine de mort contre de pareils rassemblements. Il faudrait tracer une ligne de démarcation entre les soldats anglais faits prisonniers en combattant et les Américains armés contre nous. Les premiers sont de simples prisonniers, les autres sont des traîtres. Les uns n'ont perdu que leur liberté, la tête des autres est dévolue au bourreau. En dépit de notre sagesse, quelques-unes de nos mesures sont infiniment entachées d'une faiblesse qui encourage les dissensions. L'alliance des colonies est trop peu solide. Si nous ne faisons pas quelques tentatives pendant qu'il en est encore temps, avant peu il sera trop tard pour en faire d'aucune espèce, et nous tomberons dans un état où les projets de réconciliation et d'indépendance seront également impraticables. L'administration et ses villes adhérents sont retournés à leurs anciens artifices qui consistaient à diviser les colonies, et nous ne manquons pas d'imprimeurs empressés de répandre des faussetés spécieuses. La lettre hypocrite et pleine d'art qui parut il y a quelques mois dans deux journaux de New York et que d'autres copièrent prouve démonstrativement qu'il y a des hommes dépourvus soit de jugement, soit de probité. Il est aisé de parler de réconciliation dans les écrits et dans les journaux. Mais les apologistes de cette mesure considèrent-ils sérieusement les difficultés qu'elle entraîne et les dangers dont elle nous menace si les opinions des colonies sont partagées? Leur coup d'œil embrasse-t-il les différentes classes d'hommes dont elle compromet les intérêts et la situation aussi bien que la leur? Se mettent-il à la place de l'infortuné qui a déjà tout perdu et du soldat qui a tout quitté pour défendre sa patrie? Si leur modération malentendue n'est accommodée qu'à leur position particulière, sans égard pour celle d'autrui, l'événement les convaincra qu'ils auront compté sans leur hôte. « Mettez-vous, disent-ils, sur le pied où nous étions en 1763. » Je réponds qu'il n'est pas au pouvoir de la Grande-Bretagne de condescendre à ce vœu et qu'elle n'en fera pas la proposition. Mais dans le cas contraire, et supposé qu'elle accordât cette demande, que l'on me dise par quels moyens on rendra cette cour mensongère et corrompue fidèle à ses engagements. Un autre parlement, que dis-je, le parlement actuel peut les annuler sous prétexte qu'ils ont été arrachés par force ou que l'on a eu tort de les contracter. Et si cela arrive, quel sera notre recours? Il ne s'agit pas de plaider entre nations. Les canons sont les légistes des couronnes, et le glaive, non celui de la justice, mais celui de la guerre, décide de leur querelle. Pour nous retrouver comme nous étions en 1763, il ne suffit pas que les lois soient remises au même état. Il faut qu'on y remette aussi nos propriétés, que nos villes incendiées ou détruites soient réparées ou rétablies, que nous soyons indemnisés de nos pertes individuelles, que nos dettes publiques contractées pour la défense générale soient acquittées. Autrement, nous serons dans un état 1 million de fois pire que nous n'étions à cette époque dignes d'envie. Si l'on eût accordé cette demande il y a 1 an, la Grande-Bretagne se serait conciliée l'affection de tous les Américains. Mais à présent, il est trop tard, nous avons passé le Rubicon. De plus, il paraît aussi contradictoire avec les lois divines et les sentiments de l'humanité de prendre les armes dans la seule vue de nécessiter l'abrogation d'un acte fiscal qu'il l'est de prendre les armes pour exiger que l'on s'y soumette. Des deux côtés, l'objet ne justifie pas les moyens. La vie des hommes est d'un trop grand prix pour qu'on la prostitue à de semblables bagatelles. Ce qui, aux yeux de la conscience, autorise l'usage de nos forces, c'est la violence que nous avons soufferte, et dont on nous a menacés, la destruction de nos propriétés par des soldats, l'invasion de notre patrie exécutée avec le fer et le feu. Et le moment où nous avons été contraints d'employer ce mode de défense a dû nous affranchir de toute suggestion à l'égard de la Grande-Bretagne. L'indépendance de l'Amérique a dû dater son origine et sa proclamation du premier coup de fusil tiré contre ses habitants. Cette ligne de séparation est tracée par l'équité. Ce n'est point le caprice ou l'ambition qu'il faut en accuser. Elle est le fruit d'une chaîne d'événements qui ne sont point arrivés par la faute des colonies. Je terminerai ces observations par quelques aperçus bien intentionnés et analogues aux circonstances. Nous devons réfléchir qu'il y a 3 manières différentes de nous rendre indépendants et que tôt ou tard, l'une d'elles décidera le sort de l'Amérique. Le vœu légal du peuple, énoncé par le Congrès, le droit des armes, une insurrection de la multitude. Or, il peut arriver que nos soldats ne soient pas toujours citoyens et que la multitude ne soit pas composée d'hommes raisonnables. La vertu, ainsi que je l'ai remarqué plus haut, n'est point héréditaire. Elle n'est pas même constante chez les mêmes individus. Si nous devenons indépendants par le premier de ces moyens, nous avons toutes les facilités, tous les encouragements possibles de former la constitution la plus pure et la plus noble qui ait existé sur la terre. Il ne tient qu'à nous de revenir aux premiers âges du monde. On n'a pas vu depuis Noé de peuple dans une pareille situation. La naissance d'un nouvel univers est proche, et ce qui se passera sous peu de mois réglera la portion de liberté que doit attendre une race d'hommes, peut-être aussi nombreuse que toute la population de l'Europe. Quelle imposante réflexion! Et sous ce point de vue, combien les petites ruses de quelques particuliers intéressés ou faibles paraissent insignifiantes et ridicules lorsqu'on les met en balance avec le destin d'une partie du globe. Si nous avons l'imprudence de négliger cette occasion favorable et séduisante, et que par la suite d'autres moyens effectuent notre indépendance, nous répondrons des suites, ou plutôt ils en répondront à jamais, ceux dont l'âme étroite et obscurcie par les préjugés a pris l'habitude de combattre ce parti sans examen et sans réflexion. Certaines raisons militent en sa faveur que bien des gens approuvent intérieurement et dont ils n'osent parler en public. Il ne s'agit pas maintenant de discuter si nous serons indépendants ou non. Il s'agit de fonder notre indépendance sur une base solide et glorieuse et de regretter de ne l'avoir pas fait plus tôt. Chaque jour nous démontre la nécessité de cette résolution. Les Tories eux-mêmes, s'ils se trouvent encore parmi nous de ces êtres méprisables, devraient être les plus ardents à nous y exciter. Car, de même que la création des comités les sauva d'abord de la rage populaire, ainsi une forme de gouvernement sage et bien établie sera l'unique garant de leur sûreté à venir. Par conséquent, s'ils n'ont pas assez de vertu pour être Whigs, ils doivent avoir assez de prudence pour désirer que nous nous déclarions indépendants. En un mot, l'indépendance est le seul lien qui soit capable de maintenir l'union des colonies. Nous verrons distinctement notre but, et nos oreilles seront légalement fermées au projet d'un ennemi aussi intrigant que barbare. Nous serons en même temps sur un pied convenable pour traiter avec la Grande-Bretagne, car il y a lieu de croire que l'orgueil de cette cour sera moins choqué de traiter de la paix avec les États de l'Amérique que de traiter d'un accommodement avec des hommes qu'elle qualifie de sujets révoltés. Ce sont nos délais qui l'encouragent à se flatter de nous conquérir, et notre timidité ne sert qu'à prolonger la guerre. Ainsi que nous avons, sans en recueillir beaucoup de fruits, interrompu notre commerce en vue d'obtenir le redressement de nos griefs, essayons maintenant de les redresser nous-mêmes par notre indépendance et offrons à l'heure de rendre au commerce sa première activité. Tous les négociants, tous les Anglais raisonnables seront encore pour nous, attendu que la paix avec le commerce est préférable à la guerre sans commerce, et si leurs offres ne sont pas acceptées, nous pourrons nous adresser à d'autres cours. Ces principes posés, j'abandonne cette discussion. Et comme on n'a pas encore entrepris de réfuter la doctrine contenue dans les premières éditions de ce pamphlet, c'est une preuve négative ou qu'elle n'est pas de nature à être réfutée, ou que le parti qui la favorise est trop nombreux pour qu'on ose lui tenir tête. Ainsi, au lieu de nous regarder les uns les autres avec une curiosité inquiète ou soupçonneuse, que chacun de nous serre amicalement la main de son voisin et concourt à tracer une ligne en deçà de laquelle il ne subsiste plus aucun vestige des anciennes dissensions. Que les noms de Whig et de Tory soient effacés pour jamais, qu'il n'y ait plus parmi nous d'autres dénominations que celles de bons citoyens, d'amis francs et déterminés, de vertueux défenseurs des droits de l'homme et des États libres et indépendants de l'Amérique. Aux représentants de la société religieuse des Quakers, ou plutôt à toutes les personnes de cette croyance, qui ont eu part à la publication de l'écrit intitulé « Nouvelle exposition des principes des Quakers relativement au roi et au gouvernement » et touchant les troubles actuels de l'Amérique adressés à la généralité du peuple. L'auteur de ce qu'on va lire est du petit nombre de ceux qui ne déshonorent jamais la religion en jetant du ridicule ou en chicanant sur les dénominations quelconques. Dans ce qui regarde la croyance, nous ne devons des comptes qu'à Dieu seul. Nous n'en devons point aux hommes. Cette lettre ne vous est donc point adressée comme à une société religieuse, mais comme à un corps politique qui s'ingère dans une discussion à laquelle vous demeureriez étranger si vous étiez fidèle au principe de quiétude dont vous faites profession. Comme vous vous êtes mis, sans y être aucunement autorisé, à la place de toute la société des Quakers, pour être avec vous sur un pied d'égalité, je me vois contraint de me mettre à la place de tous ceux qui approuvent les écrits et les principes contre lesquels vous vous élevez. Je choisis même exprès cette situation singulière pour que vous soyez plus frappés d'un excès de témérité sur lequel vous vous faites illusion par rapport à vous-même. Car ni vous ni moi n'avons de titre au personnage de représentant politique. Quand les âmes ont quitté le bon chemin, il n'est pas surprenant qu'ils continuent de s'égarer. Or, d'après la manière dont vous avez rédigé votre adresse, il est évident que, réunis pour vous livrer aux matières religieuses, vous êtes bien faibles en politique. Quelque bien adaptés que vous paraissent vos raisonnements, ils ne présentent qu'un absurde assemblage de bons et de mauvais, et la conclusion que vous en tirez est aussi peu naturelle qu'elle est injuste. Nous vous passons vos deux premières pages, qui forment plus de la moitié de votre adresse, et nous attendons de vous la même politesse, vu que l'amour et le désir de la paix ne sont pas exclusivement réservés aux Quakers. C'est le vœu que la nature et la religion mettent dans le cœur de tous les hommes. Sur ce principe travaillant à établir une constitution indépendante, nous n'avons point de rivaux dans notre but et dans nos espérances. Notre plan est fondé sur une paix éternelle. Nous sommes là de disputer avec la Grande-Bretagne, et nous ne voyons de terme à nos querelles que dans une séparation définitive. Nous agissons conséquemment parce que nous endurons les maux et les souffrances du moment pour arriver à une paix qui n'aura ni fin ni interruption. Nos efforts ont et auront constamment pour objet de dissoudre une liaison qui a rougi de sang nos campagnes et qui, aussi longtemps qu'il en subsistera le moindre vestige, ne cessera d'être nuisible à l'Amérique et à l'Angleterre. Nous ne combattons ni par vengeance, ni par esprit de conquête, ni par orgueil, ni par ressentiment. Nous n'insultons point l'univers en y promenant nos flottes et nos armées. Nous ne ravageons point le globe dans l'intention de nous enrichir de ses dépouilles. On nous attaque à l'ombre de nos vignes. On nous traite avec violence dans nos propres maisons et sur notre territoire. Nos ennemis se présentent à nous comme des voleurs de grands chemins et des brigands. Ne pouvant invoquer la loi pour nous défendre contre leurs attentats, nous sommes obligés de les punir par la voie des armes et d'employer l'épée dans les mêmes circonstances où vous-même vous avez employé la corde. Peut-être nous partageons la douleur de ceux que l'on a ruinés et insultés dans tout le continent, avec un degré de sensibilité qui ne s'est point encore manifesté dans le cœur de quelques-uns d'entre vous. Mais êtes-vous bien sûr de ne pas vous méprendre sur la cause et sur les principes qui ont dicté votre profession de foi politique? Ne donnez pas à l'indifférence le nom de religion et ne mettez pas l'hypocrite à la place du chrétien. La partialité vous fait trahir les maximes qui sont la base de votre croyance. Si c'est péché que d'être en armes, on doit pécher bien davantage en commençant la guerre. La proportion est la même que celle d'une attaque volontaire et d'une défense inévitable. Si donc vous prêchez conformément aux inspirations de votre conscience, si votre projet n'est pas de faire de votre religion un jouet politique, donnez-en la preuve en adressant votre doctrine à nos ennemis, car ils sont en armes aussi bien que nous. Donnez-nous une marque de votre sincérité en la prêchant dans le palais de St. James, devant les commandants en chef de Boston, à tous les amiraux, à tous les capitaines qui ravagent nos côtes en véritables pirates, enfin à toute la horde sanguinaire qui agit sous l'autorité du monarque que vous faites profession de servir. Si vous aviez la noble franchise de Barclay, vous l'exhorteriez au repentir, vous lui montreriez ses fautes, vous l'avertiriez du malheur éternel qui le menace. Vous ne réserveriez pas vos invectives partiales à vos frères outragés et souffrants. Mais, comme de fidèles ministres de la parole divine, vous élèveriez la voix et n'épargneriez personne. Ne dites pas que vous êtes persécutés, ne vous efforcez point de faire tomber sur nous le blâme de cette persécution que vous cherchez. Car nous attestons au genre humain que si nous nous plaignons de vous, ce n'est pas parce que vous êtes quaker, mais parce que vous prétendez l'être et que vous ne l'êtes pas. Hélas, il semble, à voir le but de quelques-unes de vos propositions et de certains traits de votre conduite, que vous réduisiez le péché au seul acte de porter les armes, et encore qu'il n'y ait que le peuple sur qui porte cette décision. Vous paraissez avoir pris la voie des factions pour celle de la conscience, parce que la teneur générale de vos actions manque d'uniformité. Aussi ne pouvons-nous ajouter foi, sans beaucoup de peine, à vos prétendus scrupules, voyant qu'ils sont allégués par les mêmes hommes qui, à l'instant où ils se récrient contre la mammone, poursuivent leur profit avec toute l'agilité du temps et la voracité de la mort. Le passage que vous citez du livre des Proverbes, savoir que, quand la conduite d'un homme plaît au Seigneur, il force ses ennemis même d'être en paix avec lui, ne pouvait être plus mal choisi, puisqu'il prouve que le monarque, pour qui vous témoignez tant de zèle, ne plaît point au Seigneur. Autrement son règne serait paisible. Je viens maintenant à la dernière partie de votre adresse, à celle dont tout le reste semble former l'introduction. Nous avons toujours eu pour principe, dites-vous, puisque nous sommes appelés à mettre en évidence la lumière du Christ, manifestée dans nos consciences jusqu'à ce jour, qu'il appartient à Dieu seul d'élever et de renverser les rois et le gouvernement pour des raisons qui lui sont mieux connues qu'à nous autres hommes. Que nous ne devons pas nous immiscer dans ces révolutions, nous inquiéter de notre sort, et encore moins comploter la ruine des pouvoirs subsistants, mais prier pour le roi, pour la sûreté de la nation, et pour le bien de tous nos semblables. Enfin, que nous pouvons mener une vie tranquille et vertueuse, sous quelque gouvernement que le ciel ait jugé à propos de nous placer. Si réellement ce sont là vos principes, que ne vous y conformez-vous ? Que ne laissez-vous à Dieu le soin de faire tout seul ce que vous prétendez n'appartenir qu'à lui? Ces mêmes principes vous enseignent à attendre avec patience et humilité l'événement des mesures nationales et à vous y soumettre comme à la volonté divine. Que sert votre profession de foi politique si vous croyez ce qu'elle renferme? Vous avez prouvé en la mettant au jour, ou que vous ne croyez point ce que vous faites profession de croire, ou que vous n'avez pas assez de vertu pour pratiquer ce que vous croyez. Les principes du quakerisme tendent directement à faire de quiconque les adopte un sujet paisible sous quelque gouvernement qu'il ait à vivre. Et si Dieu s'est réservé la prérogative d'élever et de renverser les rois et les gouvernements, à coup sûr, il ne permet pas que nous le dépouillions de ce droit. Ainsi, votre principe même vous conduit à approuver tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera encore à l'égard des rois. Olivier Cromwell vous remercie. Selon vous, Charles Ier ne mourut point par la main des hommes. Et si jamais pareille fin termine les jours de son orgueilleux imitateur, ceux qui ont rédigé votre adresse seront forcés par leur propre doctrine d'applaudir à cette catastrophe. Ce n'est point par des miracles que les rois sont détrônés. Il n'entre que des moyens simples et humains, tels que nous en employons, dans les altérations que subissent les gouvernements. La dispersion même des Juifs, quoique le Sauveur l'eût prédite, s'effectua par la voie des armes. Par conséquent, si vous refusez votre secours à l'un des partis, vous ne devez pas vous mêler des intérêts de l'autre. Votre devoir est d'attendre en silence ce qui arrivera, et à moins que vous ne soyez en état de produire une autorité divine, pour prouver que le Tout-Puissant, qui a placé ce nouveau monde aussi loin qu'il l'a pu, de toutes les contrées de l'ancien, n'approuve pas qu'il soit indépendant de la cour vicieuse et corrompue de la Grande-Bretagne. À moins, dis-je, que vous n'ayez ce titre à nous opposer, comment pouvez-vous justifier, d'après vos maximes, le langage incendiaire par lequel vous excitez le peuple à se liguer fortement dans la haine des écrits et des mesures qui annoncent évidemment le désir et le projet de rompre les heureux liens qui nous ont unis jusqu'à ce jour avec l'Angleterre, ainsi que la subordination juste et nécessaire que nous devons au roi et aux dépositaires légaux de son autorité. Quoi ? Les mêmes hommes qui, deux lignes plus tôt, résignaient passivement à l'être suprême, l'ordre, les changements et la disposition des rois et des gouvernements, reviennent ici sur leurs principes et veulent y prendre part. Est-il possible que cette conclusion suive la doctrine exposée dans le même ouvrage? L'inconséquence est trop frappante pour n'être pas remarquée. L'absurdité est trop grande pour ne pas exciter le rire. Au surplus, c'est tout ce que l'on pouvait attendre d'une association d'hommes aveuglés par les sombres préjugés d'un parti aux abois. Car on ne doit pas vous regarder comme parlant au nom de toute la société des Quakers, mais seulement comme une fraction remuante de ce corps digne d'estime. Ici finit l'examen de votre profession de foi. Je n'engage personne à l'aborer, comme vous avez fait pour les écrits que vous n'approuvez pas, mais à la lire et à la juger sans prévention. Je veux cependant ajouter encore une remarque. L'expression « d'élever et de renverser les rois » signifie sans doute faire un roi de l'homme qui ne l'est pas et ôter ce titre à celui qui le possède. Et je vous prie, cela a-t-il le moindre rapport avec les circonstances où nous nous trouvons? Notre dessein n'est pas plus d'élever que de renverser des rois, d'en élire que de les détruire. Tout ce que nous demandons est de n'avoir rien à démêler avec eux. Ainsi, votre profession de foi, sous quelque point de vue qu'on l'envisage, ne sert qu'à déshonorer votre jugement. Et pour plusieurs raisons, vous eussiez mieux fait de la garder pour vous que de la publier. Premièrement, parce qu'elle tend à compromettre la religion et à diminuer son empire. Car il est infiniment dangereux pour la société de lui faire jouer un rôle dans les controverses politiques. Secondement, parce qu'elle présente, comme approuvant les professions de foi politiques, ou comme y prenant intérêt, une société d'hommes parmi lesquelles il s'en trouve beaucoup qui ne sont point d'avis de publier ainsi leurs sentiments. Troisièmement, parce qu'elle tente à détruire cette harmonie, cette union de nos provinces que vous-même avez concouru à établir par vos contributions généreuses et qu'il importe infiniment de maintenir à tous tant que nous sommes. Sur ce, je vous dis adieu sans colère ni ressentiment. Puissiez-vous, tels sont les désirs que je forme dans la sincérité de mon cœur, en votre double qualité d'hommes et de chrétiens, jouir pleinement et sans interruption de tous les droits civils et religieux et contribuer à votre tour à les garantir aux autres. Mais puisse en même temps l'exemple si imprudemment donné par vous de mêler la politique et la religion, encourir le désaveu et la réprobation de tous les habitants de l'Amérique. Fin.